Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Benjamin Muller, l'une des figures masculines de la Maison des Maternelles. Il me raconte comment il est devenu papa à l'âge de 25 ans, où il était encore un bébé selon lui, comment et pourquoi ils ont mis en route le petit deuxième, puis un troisième ensuite, et ce qui l'a amené à travailler pour la Maison des Maternelles. Et globalement, tout ce que cette aventure lui a appris sur sa propre paternité. Un grand merci à Benjamin pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Salut, je suis super Benjamin. Content d'être là. Merci beaucoup de m'inviter.
Ouais, grand plaisir, ça fait longtemps, tu sais, que j'étais dans mon radar.
Dans ta to-do list.
En me disant, il faut que je contacte Benjamin. On a une petite heure, merci. On est dans une loge, là, à France ouais. Télévisions, entre deux émissions, entre deux enregistrements d'émissions. Un grand merci à toi de venir. Donc, tu es.
En fait, moi, je veux dire vraiment merci
Vas-y.
À toi.
Ok.
Parce que quand tu m'as proposé ça il y a quelques mois déjà, ouais. Franchement, j'étais trop content. Et puis après, bon, les choses, le Covid, tout ça a fait que ça s'est pas fait. Et un jour, je me suis dit, merde, il m'a oublié, il veut plus me faire, j'ai dû dire une connerie un jour et tout. Et donc quand tu m'as relancé, j'étais trop content. Donc c'est cool.
Je t'avais pas oublié. Et même si tu disais des conneries, en vrai, ça m'intéresse.
Ah, encore plus.
Ah bah ouais, parce qu'en fait, et puis qui suis-je pour dire que tu vas dire une connerie en plus,
raison.
Tu vois. On est ici pour parler de ton rapport à la paternité. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou peut-être qui regardent pas France 5, tu es l'une des figures masculines.
Ouais.
De la Maison des Maternelles.
Ouais, je me fais une petite présentation rapide.
Vas-y.
J'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, je suis journaliste et je suis au maternelle depuis 5 ans. Et avant c'était sur France 5, tu sais, on est passé sur France 4 là, on s'est
pas. Ah oui,
dernier.
Sur France 4, oui.
Et il y a aussi la Maison des Parents maintenant qui est la deuxième émission qui traite des ados dans la foulée à 10h. Et donc ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Quand je suis arrivé dans cette émission, je m'intéressais déjà beaucoup à ces sujets, et puis en étant tous les jours là-dedans, ça m'a ouvert à cette matière qui est extraordinaire, qui est celle de la parentalité, qui m'a fait réfléchir sur beaucoup de sujets, etc. Et maintenant, ouais, plus j'avance là-dedans, plus ça me passionne.
D'accord.
J'avais un peu peur, tu vois, au début de m'enfermer dans une case, et en fait je trouve que ça ouvre des horizons. Mais toi-même, en faisant ce podcast, je veux dire,
bien
tu
sûr.
Parles de père, de paternité, de parentalité, mais en fait tu parles de tout.
Oui.
Parce que tu parles de la vie.
Oui.
Les mecs que t'interviews, donc c'est une matière extraordinaire, ce sujet-là.
Et alors, si je me trompe pas, t'es arrivé il y a 5 ans, c'est ça? T'étais pas encore papa?
Si.
Ou
si,
tout
si,
juste,
si.
Non, c'est ça?
J'avais une fille qui avait déjà 3 ou 4 ans.
Ah, ok, d'accord.
Et là maintenant j'en ai 3, mais ouais, non, si, j'avais déjà les mains dedans.
T'avais déjà?
J'étais déjà.
Non, mais je me disais, ça aurait pu être.
Ouais, mais je pense vaut mieux quand même avoir des enfants pour déjà tout l'aspect concret. Il y a toute une part de l'émission, on parle de changement de couche, on parle de nuit galère, etc. Je pense que c'est quand même bien d'avoir une idée de quoi tu parles. Et puis c'est vrai que moi, il y a 10 000 sujets où c'est en galérant chez moi que je me dis, mais attends, ça, il faut qu'on le fasse à l'antenne. Donc ça aide quand même.
Ok. L'une des premières questions que je pose à mes invités, c'est comment t'es venu, toi, l'idée de devenir papa?
Bah, ils te répondent quoi, tes invités?
Ah bah, il y a plein de réponses
compliqué.
Différentes.
Moi, je pense que j'ai toujours su que je voulais être père.
Ouais.
Je suis une famille nombreuse. J'ai 2 frères et une sœur. Après, mes parents se sont séparés. Il y a eu des enfants encore, une famille recomposée. Donc, moi, si tu veux, mon enfance, mon adolescence, on était toujours 5-6 à table, minimum. Les week-ends, entre les copains, copines des uns des autres, les oncles, les tantes, on était toujours 15 à table. C'est toujours la fête et tout. Moi, j'adore ça. J'ai toujours adoré les familles nombreuses. Tu sais, où ça débat, où ça s'engueule, où ça rigole fort, etc. Moi, je me suis toujours imaginé père d'une famille nombreuse. Et donc, j'ai jamais eu un jour le déclic. Quand j'ai rencontré ma femme, on en a parlé rapidement sans se dire on fait l'enfant tout de suite, tout ça. Mais on était d'accord. Donc, un jour, on s'est dit écoute, on essaye. On s'est dit bah ouais, allez, essayons. Et tu vois, c'était très naturel. On a eu cette chance-là, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Puis 3 semaines après, on a eu de la chance. Donc après, c'était quand même un petit coup de chaud. Hein. Entre le moment où tu te dis on va essayer et le moment où ta femme te dit qu'elle est enceinte, t'as un petit... Quand il n'y a que trois semaines, tu n'as pas trop eu le temps de te mettre en, de te préparer.
Est-ce que tu n'étais pas forcément... Ouais, justement, est-ce que tu n'étais pas forcément projeté? Ou tu t'étais juste dit, bon, ok, c'est un truc qu'il faut faire maintenant. C'est peut-être, j'allais dire, une case à cocher quand tu commences à être bien dans un couple, etc.
En vrai, je pense que je ne m'étais pas projeté. Parce qu'en fait, moi, je pense que l'image que j'avais de la famille, c'était celle de ma famille, en fait, comme tout le monde. Mais en fait, quand t'es frère ou sœur d'une famille nombreuse, ça n'a strictement rien à voir avec quand tu deviens père. C'était pas le côté case à cocher, mais c'était... J'avais aussi cette volonté de devenir père assez jeune. Et ma femme aussi, on était sur le même... Donc moi, j'ai eu ma fille à 25 ans. Et en fait, je suis hyper content de ça parce que dans mon idée, je me dis que quand j'en aurai 40, 45 ans, les enfants seront un peu plus indépendants qu'aujourd'hui, ados, et je pourrai encore, tu vois, bien kiffer, quoi. Alors après, à 25 ans, quand t'as déjà un enfant, ça a plein de côtés négatifs aussi, hein. C'est-à-dire que quand tes potes font la fête, quand tout ça, et toi, bah, toi, c'est plus pour toi. Mais je me rattraperai quand j'aurai 45 ans, dans 10 ans. Je serai libéré.
Tu pourras faire ta crise d'adolescence.
Ouais, exactement. Avec ma femme, on attend. Je te dis, on a coché plein de trucs à faire pour quand on pourra.
Comment se passe l'accouchement, toi, de ton côté? Comment tu vis justement le fait que ça soit venu assez rapidement comme ça?
C'est dur, hein, l'accouchement.
Comment t'as réussi à te... Alors, pas l'accouchement, la grossesse.
Comment s'est passée la grossesse? Bah là, pour le coup, j'ai quand même tout découvert. J'ai découvert la vie, hein. Franchement, tu sais, les mots péridurale, épisiotomie, tout ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait. En fait, c'est aussi là où tu te rends compte que quand on est, nous, dans l'éducation, je ne sais pas toi, mais dans l'éducation que moi j'ai eue, je pense notamment à l'école, l'éducation sexuelle, etc., on t'en parle jamais, en fait. Tu n'es jamais préparé à ça. Et comme... Je sais pas, moi, dans ma bande de potes, tout ça, personne n'avait encore d'enfants, j'étais prêt à rien, quoi. Je veux dire, la première échographie, quand j'y suis allé, je savais à peine ce que c'était. Pour moi, c'était comme dans les films américains, quoi. Oh, on va te dire le sexe, on va te dire il est en forme et tu vas repartir. En fait, je découvre que c'est un examen médical à la première échographie. On fait écouter le cœur, on dit le cœur bat bien, tout va bien, etc. Je me dis, ah bon, pourquoi il y a un risque à ce moment-là que ça n'aille pas? Donc, moi, j'ai tout découvert sur le tas. Avec ma femme, on était encore des grands enfants, quoi. On était encore deux gamins, je trouve. Hein.
Ouais.
On a vraiment appris à devenir parents, mais appris à envisager de devenir parents pendant la grossesse.
Oui, et donc cette forme d'insouciance-là, tu as réussi à la garder tout
non.
au long?
Pas du tout. Malheureusement pour moi, non. Ça je l'ai, ouais. Je l'ai perdu, l'insouciance, pour plusieurs raisons. Je trouve c'est angoissant quand même d'être parent. Moi, je trouve que c'est angoissant. Je pense que je l'étais beaucoup moins avant de devenir père. Et par les temps qui courent, entre le Covid, tu vois, en étant au maternel tous les jours, on fait quand même énormément de sujets plutôt positifs, etc. Mais on parle aussi de ce qui va moins bien, voire de ce qui va vraiment moins bien. Et moi, je sais pas, je suis un peu une éponge. Quand on va faire une émission sur le cancer des enfants, je sais pas comment font. Y a plein de gens qui réussissent à, tu vois, à rentrer chez eux et à passer à autre chose. Moi, j'y arrive pas, ça m'atteint beaucoup et ça m'angoisse. Et j'aime bien en parler avec Arnaud Fersdorf, qui est le pédiatre de notre émission. Donc, il est pédiatre. Donc, t'imagines, il a été réanimateur, bossé à l'hôpital, etc. Il en a vu des choses horribles. Et j'aime bien en parler avec lui. Il m'aide beaucoup pour justement faire la part des choses tu vois, moi, c'est modeste, hein, ce que je vois. C'est de temps en temps dans une émission. Lui, c'est tous les jours. Donc c'est un travail que je fais sur moi-même, mais cette légèreté-là, entre le fait de devenir parent avec les difficultés que tu peux avoir, les petits pépins de santé, moi, tu vois, je touche du bois, il n'y a jamais eu de gros problème, mais quand même, t'as quand même des petites angoisses, tu vois, quand t'es père. Et l'émission où, quand tu croises un parent qui a perdu un enfant, etc., moi, j'arrive pas à ne pas être atteint, quoi.
Et alors, comment il a fait pour réussir à te détendre sur le sujet?
Bah, on y travaille tous les jours. Tu sais que c'est vrai,
quoi,
en plus.
C'est quoi ces conseils?
Ses conseils, c'est de... Je sais pas, je crois qu'il m'écoute surtout encore, pour le moment. Il m'a pas trop donné de conseils. Non, en fait, il y a un bon conseil qu'on m'a donné une fois, c'est aussi d'accepter que la vie n'est pas... Moi, je suis un éternel optimiste, et peut-être que mon optimisme, parfois, me fait être naïf, et que je suis confronté au réel, et que du coup le réel me ramène à ma situation de grand naïf, et du coup ce truc à lui, c'est aussi d'accepter que la vie n'est pas toute rose, mais qu'à l'inverse le pire n'est pas toujours à venir. Donc je suis, tu vois, entre l'ambivalence de ces deux sentiments. Donc il faut accepter un peu le destin, tu vois, les trucs carpe diem là. Moi, quand j'entends des gens dire ça, je sais pas comment ils font. Moi, j'ai du mal, moi, tu sais, à me dire, bah écoute, c'est le destin, tout ça.
Et t'as perdu cette insouciance-là, enfin ce carpe diem, ouais, en devenant papa, quoi.
Ben un peu, ouais. En devenant adulte, j'étais aussi. En devenant, ouais, papa, je suis devenu adulte en fait. Je trouve. Mais c'est souvent, je pense comme ça. Hein. J'étais un gamin. Moi, quand on a eu notre premier enfant, donc 25 ans, mais j'étais encore vraiment en mode à faire la fête tout le temps, à avoir tout le temps 15 copains qui dormaient à la maison le week-end. On vivait dans un tout petit appartement à Paris. J'étais un gamin, quoi, franchement. Et bah, du jour au lendemain, quand même, tu peux plus être un gamin, tu peux plus faire tout ça. Donc ouais, je suis devenu adulte en devenant père.
Est-ce que tu as la sensation qu'il y a eu un moment où un moment charnière où tu t'es dit, ok, en fait, maintenant, faut arrêter d'être insouciant, faut pas déconner. C'est à la naissance de...
Ouais, je pense que c'est... Même la grossesse, en fait, ouais, plonge quand même déjà dans ça. J'avais commencé un peu à essayer de lire des bouquins ou des témoignages de pères ou des articles qui traitaient du sujet pour essayer de m'imprégner un peu du truc. Puis surtout, je voulais pas. J'avais peur d'un truc, c'était de m'en foutre. Parce que tu sais, t'entends tellement qu'il y a des pères qui s'en foutent, etc., que j'avais peur de le devenir, moi. Et en fait, bon, je suis pas du tout comme ça. Là, voire au contraire, tu vois le truc. mais je me souviens que j'avais besoin de me dire, alors attends, toi, il faut que tu sois investi, il faut que tu sois un père présent, etc. Je me suis mis à pression, en fait. Donc, c'est peut-être à ce moment-là, pour répondre à ta question.
Ok. En
commençant à me mettre la pression, peut-être ça me rassurait.
T'as la sensation. Je vois. Est-ce que c'était aussi en rapport peut-être avec ta propre éducation que t'avais reçue ? Parce qu'il y a souvent ce truc, tu sais, chez mes invités, de ça finit par faire miroir, quoi.
Bah, ça fait carrément miroir. Moi, j'ai un père qui était présent, qui l'est encore, tu vois, qui nous a élevés avec mes frères et sœurs. Donc, bah, forcément, ça me renvoyait à cette image-là de la paternité, comme d'un père qui est présent, même s'il travaillait, tout ça. Et, je veux dire, il était pas 24-24 avec nous. Ma mère s'est arrêtée pendant 7 ans pour s'occuper de nous.
Okay.
Mais mon père était quand même présent, et tu vois, on pouvait parler avec lui. Donc, je pense que ça me renvoyait à cette image-là. Mais je te dis, ça se confrontait à ce qu'on commençait beaucoup à entendre dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a quand même trop de pères qui prennent pas leur part, etc. Donc, je pense que je me mettais la pression par rapport à ça. Et pas tant par rapport à ma famille. Le modèle que j'ai eu, moi, si tu veux, je voulais plutôt le reproduire, quoi.
Je comprends. Tu disais tout à l'heure, l'accouchement, c'était... Comment t'as dit ? T'as utilisé le terme, c'était dur ?
Ah ouais, c'est chaud. Ça, c'est chaud, l'accouchement. Franchement, c'est pareil quand t'entends... Enfin, pour moi, un accouchement, c'est... Bon, il y a un moment que je trouve extraordinaire, c'est juste avant l'accouchement, quand t'es seul avec ta femme et l'attente. Alors tout le monde n'a pas cette attente, etc. Mais nous, on l'avait. Et je trouve que c'est un moment, tu te mets dans une bulle avec ta femme. Nous, j'ai des souvenirs, on a vraiment bien discuté, bien rigolé. On faisait, enfin, j'étais allé lui acheter un peu des magazines de merde à l'hôpital où on était, où tu sais, on lisait des conneries. C'est aussi le moment où tu fais des plans sur la comète. Et est-ce que t'en voudrais un deuxième alors que t'as pas encore accouché du premier, etc. Donc ça, super moment. S'écouter de la musique, vachement, c'était cool. Les sages-femmes étaient sympas, etc. Après, l'accouchement en tant que tel et tout, en tant que père, je trouve que c'est compliqué. Tu sais déjà pas physiquement où te mettre. Moi, j'avais l'impression d'être un boulet. Une fois encore dans ma tête, j'étais un gamin. Donc tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est sérieux ce qui est en train de se passer. Et je me souviens qu'une sage-femme m'avait un peu, ce qui est normal, hein, mais un peu, tu vois, dit, monsieur, décalez-vous. Et dans ma tête, il avait pris, monsieur, vous êtes relou, quoi. Et je savais pas trop me placer, etc. Donc c'est pas le moment où j'étais plus fier de ma vie, quoi. Et je me souviens que j'en avais parlé avec mon père un peu avant. Et mon père m'avait dit pareil. Il m'avait dit, tu vois, l'accouchement, tu t'y attends, tu l'espères et tout. Puis au moment d'arriver, en tant que toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Et tu te sens un peu inutile. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, t'es pas du tout inutile. Et ça, c'est important si des futurs pères nous écoutent. Là, les gars, vous avez une part importante du boulot à prendre. Parlez-en avec votre femme, essayez de lui demander ce qu'elle attend de toi, comment tu peux lui être utile. Ouais, moi j'étais un peu un coach, quoi. Tu vois, j'étais un peu Didier Deschamps à côté. Allez, ça va bien se passer, etc. Mais je pense qu'il y a des petites. Si tu discutes avec ta femme, tu sauras si elle a besoin justement d'un coach, au contraire que tu la laisses, si tu parles ou pas avec la sage-femme, je sais pas, l'aider comme ça.
Moi, je pense qu'il faut pas se laisser effectivement influencer par l'environnement qui effectivement n'est pas forcément toujours prêt pour les pères, quoi. Et puis c'est normal parce que en vrai ça fait que 50 ans en fait que les pères ils sont acceptés,
ouais.
Les salles d'accouchement, ça fait pas si longtemps que ça, hein.
Et à l'inverse, t'as vu là pendant toute l'année dernière sur le Covid le nombre de témoignages de femmes qui ont dit bah, moi j'ai accouché sans le mec, et de mecs qui ont dit bah, moi j'étais à côté parce qu'à cause du Covid ils pouvaient pas entrer, et c'était terrible. Et il y avait des témoignages de pères, tu vois, nous on en a reçu au maternel, toi t'as dû en entendre aussi. tu sais, des mecs mais désarmés, quoi, de pas avoir pu être là, et de femmes, pareil, perdues et tout. Et tu te dis que ça a quand même bien changé, bien avancé, et que ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les pauvres pères qui n'ont pas pu être là à l'accouchement, c'est sûr que c'est terrible. Mais ça montre quand même que les choses avancent positivement. Et en revanche, si on reste sur le Covid, il y a eu un truc très positif, c'est qu'il y a plein de pères qui, du coup, bah, chômage partiel, ont été à la maison pendant 2 mois. Moi, j'ai un copain qui s'appelle Jean, je sais pas s'il écoute.
Salut Jean.
Salut Jean. Et lui, voilà, il a pu profiter de ça. Il a été deux mois et demi avec sa fille qui est née, ce qu'il aurait pas du tout pu avoir. Il aurait eu 10 jours comme tout le monde. Et bah, ça, c'est extraordinaire pour lui, pour la maman, pour la petite, pour le lien entre les trois, tout ça. Donc, bon côté.
Il a fait un congé paternité un peu...
Ouais, subi.
Subi.
Mais du coup, en plus, une petite bulle... Comme bah, il n'y avait pas de visite, etc., tu étais un peu... je sais pas, tu étais... Parce que les visites, tu subis un peu quand même quand tu viens d'être parent.
Oui.
Hein,
bah, je pense qu'il faut réussir à... C'est un autre truc qu'il faut réussir à gérer, quoi. Quand, ouais.
Bah tiens, ça peut être un des boulots du père, ça. Je pense à la maternité au début et puis dans les jours qui viennent, réussir à dire non, en fait. C'est-à-dire, non, ne venez pas. Là, on est dans le dur, on est fatigué. Ou alors, si vous venez avec la bouffe. Et puis, vous nous donnez un coup de main, etc. Mais... Donc là, en fait, le Covid a permis ça, c'est-à-dire, bah non, tu peux pas venir, hein. Désolé, tu sais, il y a le Covid. Et du coup, t'étais dans une petite bulle protectrice.
C'était Joe, l'un des anciens chroniqueurs qui était au maternel, qui était passé, et qui m'avait dit que lui, il s'était frité avec la belle famille, en fait, pour... Donc, faut réussir aussi à...
À trouver les mots, ouais.
À être prêt à te payer la belle famille à ce moment-là.
Bah
quoi.
Nous, personne n'habite à Paris. Donc, si tu veux, c'était pas le genre à venir tous les... Ils sont venus un petit peu, passer une journée, puis ils sont repartis. Moi, je pense plutôt aux copains, aux... Mais effectivement, si tes parents, tes beaux-parents sont tes voisins, bah, c'est tentant pour eux de venir tout le temps. Et c'est là que ça devient difficile. Et c'est là, je pense, qu'il faut oser dire, écoute, il faut qu'on se repose. C'est pas contre toi, mais c'est difficile.
On est bien d'accord que ton premier enfant est une fille.
Ouais.
Comment ça se passe, la rencontre avec ta première fille?
Bah, je me souviens du... Là, tout pile, là, au moment où on se parle, on sort d'une émission avec Elisabeth Van Inter, ouais, où on a parlé instinct maternel, et du coup, instinct paternel, tu sais, elles sont grand truc. Et je pense qu'elle a raison, c'est que ça n'existe pas, que t'as pas au moment où t'as ton bébé dans les bras un truc où ça y est, tu te transformes, tu deviens un homme ou une femme 2.0, voué à élever ton enfant comme un lion ou une lionne va élever son lionceau. En revanche, tu manges quand même une sacrée claque quand tu vois ton enfant. Et moi, je me souviens que bon, j'ai vu ma fille et une sage-femme m'a dit, oh, bravo monsieur, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, je me suis dit, putain, mais elle a trop raison. Mais genre, elle a jamais vu une bébé comme ça, etc. Et je me suis dit, mais si elle m'avait pas dit ça, enfin, tu sais, ça m'a vachement, bravo, qu'est-ce qu'elle est belle. Je me suis vachement dit, en fait, j'étais hyper fier à partir du moment où elle m'a dit ça. Et surtout, elle m'a dit, félicitations. Et en fait, félicitations, là, je me suis dit, ah ouais, on vient d'accomplir un truc extraordinaire. Alors que moi, une fois encore, hein, là, je venais de rien faire, si tu veux. Mis à part dire à ma femme, allez, vas-y. C'est très cafouillis ce que je te dis là.
Non, mais tu disais, si elle t'avait pas dit ça, qu'est-ce qui se serait passé?
Ben, en fait, c'est juste le fait qu'elle me. Le fait qu'elle me parle directement de ma fille, c'est comme si ça me. C'est comme si ça m'accompagnait dans un moment où tu viens quand même de prendre un uppercut dans la tête. Et donc, elle m'a ramené à ça. C'est-à-dire, elle est belle. Moi, c'était pas mon angoisse première n'était pas qu'elle soit belle ou pas belle. C'était même pas la question. C'était juste, c'est votre fille, je vous en parle, etc. C'était la première personne qui m'en parlait. Et donc...
Elle existe, quoi.
Ouais, voilà, elle existe. Elle existe. Elle existe, elle est là. On est une famille, on est trois. Pour moi, elle m'a dit tout ça en me disant, elle est belle. Et puis, ça y est, t'es père, quoi. Puis là, toi, t'es là... Ah oui, je suis père. Et je me souviens, elle est sortie de la petite pièce, tu sais, où tu fais les premiers soins, etc. Puis là, j'étais là, salut, comment ça va, toi? J'étais pas fier, tu vois. T'es pas fier, quoi, au début. Enfin, t'es fier d'être père, mais tu te dis quand même, putain, je vais devoir gérer, quoi. Et là, il y a un petit coup de chaud. C'est pour ça qu'un podcast comme le tien, une émission comme les maternelles, tout, c'est hyper important pour aider les futurs parents à se mettre en tête que, ouais, on va manger quand même. émotionnellement parlant, on va manger.
Et je crois que c'est bien de le savoir parce que moi, j'aurais bien aimé. En fait, je crois que j'ai fait ce podcast aussi parce que. Bah, je l'ai pas eu quand j'ai été père, donc en fait tu prends, bah, mais comme plein d'autres pères pendant des millénaires, quoi, tu vois, j'ai pris tout dans la tronche comme ça sans être vraiment prêt, même si je sais pas si t'as fait ça aussi d'après, enfin j'étais vachement présent aux préparations, tu sais, j'y suis allé, etc. Mais d'un autre côté, ils te disent pas, alors attention monsieur, tu t'es pas prêt à ce qui va t'arriver.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils te le disent pas assez, ils ont peut-être raison, cela dit. Sinon, on se barrerait.
Ouais.
non, je plaisante, m'engueulez pas, je plaisante, on se barrerait pas. Mais ouais, je sais pas trop pourquoi. Mais toi, par exemple, toi, dans les préparations, Tu trouves qu'on te parlait à toi en tant que futur père ?
Non, pas du tout.
T'es l'accompagnant, en fait. Hein.
Ouais, c'est ça, mais c'était cool aussi de voir un petit peu comment ça allait se passer, parce que l'air de rien, même s'il te parle pas à toi, il t'explique aussi comment ça va se passer, l'environnement. Enfin, je pense qu'il y a plein de façons de se préparer aussi grâce à ça.
Tu veux dire, techniquement parlant, voilà ce qui va se passer, le lieu.
De pouvoir te projeter un peu, quoi.
Ouais, de se projeter un peu. Mm. Mais par exemple, moi, c'est vrai que ce qui me rassurait, c'était de visiter la maternité. Tu sais, les trucs, alors, telle pièce, tu
très
vois,
technique.
Très technique, cartésien, voilà, ok, comment ça va se passer. Ça me rassurait. Et tu sais, je me mets à la place des gens qui veulent accoucher à la maison, où, mais moi, j'aurais jamais pu, j'aurais trop flippé. Moi, j'avais besoin de savoir qu'il y avait des médecins de partout. En plus, t'as l'hôpital Necker, qui est quand même le top du top des hôpitaux, enfin, un des tops. Et donc, j'avais besoin de. Ça me rassurait, moi.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Comment ça se passe les premières semaines avec, avec ta fille ?
Dans mon souvenir...
Parce que ta fille a 8 ans, c'est ça aujourd'hui ?
Elle a 9 ans. Ouais.
9 ans.
Elle
okay.
a 9 ans. Comment ça se passe ? Je dirais qu'à la fois magnifiquement bien, parce que voilà, ce que je te disais, tu te retrouves à 3. Nous, on était donc souvent que tous les 3, parce que la famille n'était pas là. Petit cocon, havre de paix, je pense qu'il faut un maximum essayer d'installer, c'est ça. Le téléphone éteint. Moi, c'est un conseil que je donne, téléphone éteint, donc le moins de visites possible au début. Et puis, puis tu découvres tout, quoi. Donc t'as quand même un chamboulement interne où tu passes ton temps à te dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Où on va ? Est-ce que je vais gérer ? Est-ce que je vais être bien ? Ton couple, comment ça va évoluer ? Parce que dès le premier jour où tu rentres à la maison, tu comprends que c'est plus pareil. ça change complètement. Est-ce que je vais être un bon père ? Est-ce que je vais savoir lui apporter de ça ? Moi, donc, je dirais que c'est à la fois quand même un moment de bonheur. Je trouve on le dit peut-être plus assez que c'est comme du bonheur, parce qu'il y a tellement de chamboulements, tellement d'angoisse, tellement de tout, que c'est vrai que tout ça existe. Mais j'ai un souvenir de bonheur et de trouble interne, si tu veux. De putain, est-ce que ça va aller ? Et après, je dirais, j'ai eu 3 enfants. Au deuxième enfant, j'ai aussi eu ça. C'est-à-dire, le deuxième, ça vient changer complètement l'équilibre que tu as trouvé avec le premier. Et donc pareil, je me disais, mais est-ce que ça va changer tout... Enfin, ça va forcément changer cet équilibre. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que je vais assurer avec le deuxième comme j'ai assuré avec la première ? Est-ce que ça va traumatiser la première ? Tu vois, des trucs. Est-ce que notre couple, on va forcément être fatigué à nouveau, etc. Est-ce que ça va nous changer ? Et en revanche, le troisième... Alors ça, le troisième, je le donne en conseil à ceux qui ont 2 enfants. Faites le troisième, parce que le troisième, t'es vachement plus serein. Faudrait commencer par... Je sais plus qui avait dit un jour, commencer par faire le troisième. T'es plus cool. Oh, ça va bien se passer.
Faudrait commencer par faire le troisième. Mais ouais. C'est pas marrant.
C'est pas marrant. Mais tu sais, tu te dis aussi, bon, de toute façon, au début, moi j'avais aussi l'idéal d'être parfait, père parfait.
Ouais.
Je pense, comme beaucoup de monde. Et au troisième, en fait, c'est bon, t'as compris que t'étais pas parfait, t'as compris que t'avais tes défauts, mais tu les acceptes. Et à partir du moment où tu les acceptes, ça va déjà mieux aussi.
Comment t'as fait pour accepter tes défauts ?
Je me suis dit que j'avais pas le choix.
Non, mais tu crois pas que ton boulot aussi
si, mais ça,
à la maison
moi,
de maternelle.
J'ai une chance. Tous les jours, on reçoit des invités qui réfléchissent sur ces questions, qui écrivent dessus, etc.
Ah oui, il y a la télé qui
s'allume. Je vais essayer de l'éteindre.
Hop. Parce qu'il y a le plateau qui se met en marche.
Ouais, il y a le plateau, puis imagine, ils disent des conneries sur moi et on entend. Eh ben, j'ai un, c'est quand même un connard. Hein. Donc, je te dis, ouais, dans cette émission, on a quand même énormément de spécialistes, d'experts, d'intellectuels qui viennent, qui aident quand même vachement à relativiser nos problèmes. Tu comprends qu'en fait, autour de nous, tout le monde galère à peu près comme toi. Et puis, j'essaye aussi de me fixer 2-3 objectifs, tu vois, pour essayer de progresser, pour. Comment accepter ses défauts, je sais pas. Peut-être soit une psychothérapie qui te coûte beaucoup d'argent, soit essayer de te dire que malheureusement t'as pas le choix, quoi. Voilà, tu. Après, il y a des faux et défauts, je pense, dans la parentalité. Moi, je pense que j'ai des petits défauts. Allez, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Même si l'autre fois, ma fille, elle est venue nous voir, ma femme et moi, et elle me dit. Papa, à quel moment, vous avez eu vos névroses? On fait quoi?
9 ans.
Et on dit, ouais, 9 ans. Et en fait, elle a lu ça dans Mortel Adèle, dans la BD Mortel Adèle, où la petite parle de ses névroses. Et on dit, mais c'est quoi une névrose? Elle dit, ah, bah, les névroses, c'est ce que les parents t'ont refilé et qui t'empêche d'être heureux quand t'es adulte. Waouh! Merci Mortel Adèle. Mais du coup, on a une petite discussion là-dessus, c'était intéressant parce que, bon, elle a raison, elle a résumé le truc, quoi. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, ce qui aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on se parle, m'intéresse vachement, c'est comment faire pour leur enfiler le moins possible de nos problèmes, nos défauts, nos trucs à nos enfants. Ça, c'est un enjeu des parents d'aujourd'hui. Parce que je pense qu'on est vachement impliqués quand même, les parents d'aujourd'hui, dans l'éducation de nos enfants. On se met la pression, mais du coup, on leur met de la pression. Et donc, voilà, le petit équilibre que moi, j'essaye de trouver là-dessus.
Ok.
Mais c'est pas simple. Enfin, je sais pas comment toi tu gères, mais.
Je fais de mon mieux.
Bah ouais. Donc tu fais mal, comme tout
forcément.
Le monde. Bon, ça me rassure.
Tu peux pas faire. De toute façon, comme tu le disais, tu peux pas être parfait, ça n'existe pas. Et je pense effectivement que l'un des trucs qu'on peut dire au futur papa ou au jeune papa, c'est. Faut réussir à lâcher prise. Et je pense que c'est un vrai truc. Moi, les miennes sont ados. Donc elles ont 14 et 12, bientôt 15 et 13, tu vois, c'est. C'est un autre, autre niveau de lâcher prise, quoi, tu vois, il y a un moment donné où il faut lâcher prise sur plein de choses.
Lâcher prise et faire confiance.
Ouais.
Réussir à faire confiance. Ce qui t'y arrive. Parce que moi, l'adolescence, je me pose vachement de questions, mais ouais.
Mais c'est cool parce que notre aînée, elle est très transparente, tu vois. Elle fait une connerie, elle va le dire.
Ok.
Bah voilà. Ou alors, elle s'est retrouvée à une soirée de Nouvel An où il y avait de la vodka qui circulait, tu vois, elle est venue nous le dire. Oui, la vodka au Nouvel An. Okay. Ça permet d'avoir une discussion, tu vois, plutôt que de. Mais bon, je sais pas trop comment on a fait pour.
Un climat de confiance.
Ouais, pour mettre ça en place, tu vois, mais au fil de l'eau, je crois que juste quand elle faisait des conneries, elle venait nous le dire et en fait, elle s'en prenait pas plein la tronche.
Ouais.
Donc, on essayait de comprendre et de se mettre dans sa peau aussi et d'essayer de comprendre pourquoi elle faisait ça. Je crois que ça a aidé, quoi, avec le temps.
Ouais, un climat de confiance. L'adolescence, écoute, j'y suis pas encore, mais on verra. Et la vodka, du coup, t'as sorti une bouteille, t'as dit bon bah quitte à bois un verre avec papa.
Ouais, bah tu sais, on vient du Nord, hein, donc le cliché, il faut l'entretenir, quoi. Non, on a eu une grosse discussion sur l'alcool et puis plus tard sur la drogue, etc.
Ouais.
Quoi, tu vois.
Bah ouais.
Je crois qu'il faut juste accepter que tes mômes, ils vont faire leurs expériences et faut.
Bah, comme on les a fait nous-mêmes.
Ouais. Faut réussir à les accompagner plutôt qu'à les contre, hein, tu vois. Je crois que c'est vraiment le meilleur truc. Mais en tout cas, c'est pas mon histoire de daron.
T'as vu comme je retourne le truc?
Bah oui, mais c'est là que je vois que tu es aguerri au truc. L'autre truc que je voulais te demander, c'est comment ça se passe justement. Tu parlais de l'arrivée du deuxième dans la chronologie. À quel moment vous vous dites que vous allez faire un petit deuxième et que c'est un truc
au moment où tu redors.
Ouais.
À partir du moment où tu redors, t'oublies un peu que t'as galéré. C'est incroyable. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a vachement fait ça. T'oublies les difficultés. La nature est bien faite aussi pour ça. T'oublies à quel point ça a pu être dur à des moments, à quel point ne pas dormir et aller bosser, c'est. J'étais au bout de ma vie à des moments, franchement, physiquement, j'étais vraiment des fois à bout. Mais en fait, à partir du moment où on a redormi, on a recommencé à avoir une vie sociale normale, une vie de couple, où on faisait garder notre fille de temps en temps pour sortir à deux, ou bref, une vie à peu près normale, t'es bien, tout ça, on était bien, et donc on s'est dit, on fait un deuxième. Et là, le deuxième arrive, la grossesse, etc. Et là, pareil, tu te replonges dans ce grand bonheur d'un de plus. Et ces difficultés nouvelles, etc. Là, moi, j'ai mangé physiquement parlant. Je travaillais à l'époque à Europe 1, où je bossais beaucoup. J'arrivais genre à 9h30 le matin, je partais jamais avant 20h. Et je bossais beaucoup. Je pense qu'il y a plein de pères qui nous écoutent, ils font ces horaires-là. Mais donc, en fait, j'étais au final peu à la maison. J'ai rentré, chez moi, tu vois, le temps de rentrer était 21h, donc souvent les enfants étaient couchés, ma femme m'avait étouffé. C'était un peu, j'ai un peu détesté le père que j'étais à ce moment-là. Si okay. tu veux, pas dans le rapport avec mes enfants, mais je détestais cette situation où en fait j'étais pas présent comme je le voulais. Je subissais ça. C'était impossible pour moi d'être moins présent au boulot parce que les difficultés d'entreprise, parce que tout ça. Et j'ai tout fait pour sortir de ça. Je me suis mis en objectif. Je veux pas rester ce père qui est peu présent. Donc je me suis dit, je me fixe un an et à la fin de cette année, c'est fini ces horaires à la con où je pars à 8h30 ou même, tu vois, même le week-end, tu dois bosser, etc. Mmh. Et ça, c'est un bon conseil aussi que je peux donner, c'est fixez-vous cet objectif si vous, c'est ce que vous souhaitez. Mmh. Et c'est à ce moment-là que, quand je te dis que je mangeais, c'est-à-dire que, ouais, il n'y avait pas une nuit sans que je sois réveillé toutes les heures. C'était tout le temps. Et au boulot, j'étais une loque humaine. Puis du coup, je bossais mal. Je me souviens que du coup, je faisais des conneries au boulot. Enfin, c'était un peu la cata. T'as l'impression d'être mauvais dans tout. Du coup, à la maison, t'es fatigué, donc tu gères mal aussi.
Et c'était plus dur pour votre petit deuxième que pour la première.
Ouais, parce qu'il y en avait deux fois plus de boulot, ouais. Deux enfants qui nous réveillaient. Là, c'était dur. Là, moi, j'étais dans le dur. Avec ma femme, ouais, ma femme, et puis elle bossait de nuit,
ouais.
Quand elle a repris le boulot au bout de quelques mois. Donc, enfin, t'imagines le truc, c'était très sportif.
Parce que ta femme est journaliste.
Elle est journaliste.
Elle faisait la matinale.
Alors là, elle fait la matinale aujourd'hui d'RMC.
Ouais.
Mais à l'époque, elle faisait la matinale sur Europe 1. Et on bossait tous les deux là-bas. Et donc, tu sais, quand tu fais la matinale, là, en ce moment, par exemple, elle se lève à 1h du matin. 1h du matin. C'est chaud. Donc quand en plus t'as un enfant qui t'empêche de dormir, que en plus à cet âge-là ils sont un peu tout le temps malades, donc la crèche t'appelle un peu tout le temps pour venir les récupérer, etc. On vivait quand même en mode fatigue. T'es en mode fatigue.
Et au sein de votre couple, vous avez réussi à tenir ?
Ben franchement oui. Alors je pense que c'est notre sage-femme Anna Roy, souvent quand elle en parle, elle dit en gros quand c'est comme ça, soit le couple tu deviens une team, une équipe, tu te soutiens et ça va, soit ça se déchire. Bah nous on a de la chance parce que on a peut-être mis ça en place aussi, mais on s'est vraiment dit qu'il faut qu'on se soutienne. Et on sait, j'ai pas de souvenir de. Tu vois, t'as des petites embrouilles dues à la fatigue, mais j'ai pas de souvenir de gros clash. On n'est pas passé là-dedans. Parce que je pense qu'on l'avait vachement intégré avant. Et ça aussi, c'est un bon conseil à donner. C'est dites-vous bien que ça va être dur, mais dites-vous que même si c'est très dur, il faut que vous restiez ensemble. Même si l'autre vous saoule, etc., n'ayez pas le mot. Déstabilisant ou autre chose, on s'était préparé et du coup on l'a vécu un peu. Moi j'avais un peu l'impression d'être dans une équipe sportive à deux là et on se soutenait, etc.
Et vous l'aviez formalisé, vous l'aviez verbalisé entre vous quoi.
Et on en parlait tout le temps. Et ça, c'est le secret de toute façon. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Il faut parler un maximum. Donc ça nous a aidé à tenir. Mais ouais, non, c'était dur. Et puis bon, bah là après. Mon deuxième a commencé à faire ses nuits, le premier aussi. On a commencé à avoir une vie sociale, à faire garder les enfants le week-end. La vie est belle, etc. On pouvait repartir en vacances l'été. Et qu'est-ce qu'on fait, un troisième? Et là, quand je te disais, on était plus serein. En fait, dès le début, on s'était dit, bon, on va être fatigué, mais écoute, c'est magnifique. Et moi, j'avais réussi à m'organiser pour plus bosser autant, en termes de masse horaire. Et puis, ça a changé tout, quoi.
Ok. Est-ce que vous êtes parti pour un quatrième alors?
Non, non, merci monsieur.
Non mais
prochaine question.
Non mais tu parlais de famille nombreuse.
Ouais ouais non, trois c'est bien.
Ouais.
Trois c'est bien. On a un équilibre là qu'on a trouvé. Et j'aurais un peu peur de le péter. En plus il y a un truc très bête, c'est qu'on habite Paris. Va loger quatre enfants. Enfin, je veux dire sauf si t'es Crésus quoi, ce qui est pas notre cas. Il faut avoir un logement, là on a un logement qui nous permet d'être bien, de chacun avoir son espace et tout, ce qui est déjà une chance, je l'ai pris à Paris. Mais un quatrième, on pourrait pas. Donc ne serait-ce que matériellement, et même si demain je gagne au loto, non, je pense que c'est bien, trois. Puis c'est bien aussi, on aime beaucoup voyager. Bon alors ça fait un an qu'on est un peu niqué, mais on a pu faire des road trips tous ensemble. On est allé un mois aux États-Unis l'été d'avant, donc on a adoré, tu vois, c'était extraordinaire, on a fait le tour de la Californie avec nos enfants. On a envie de le refaire tant qu'ils sont encore petits, parce que je pense que tu leur donnes aussi le goût des autres, le goût du voyage, de l'échange, etc. Si on refait un enfant, c'est-à-dire qu'on décale de 2 ans le prochain voyage, tout ça. Je suis pas sûr. Et puis accessoirement, ma femme, tu vois, il faudrait qu'elle soit d'accord. Et là, je pense que c'est bon là.
Non, mais j'imagine que j'étais pas en train de dire c'était juste ta volonté. Quoi,
non, vois, non, non. Bah après, de temps en temps, tu sais, il y a des petits moments un peu de, tu sais, il y a des moments de grâce avec tes enfants où d'un coup tout va bien. Tout le monde est sage, tu les vois, il y en a un qui est en train de lire, l'autre qui est en train de dessiner, le troisième qui est en train de jouer tranquillement. Toi, t'es serein et tout, tu te dis, putain, un petit quatrième, ça passerait bien. Puis généralement, deux secondes après, les enfants se foutent sur la gueule et tu dis non, c'est bon, surtout pas, on s'arrête là.
Comment le Benjamin de 25 ans, il regarderait aujourd'hui celui que t'es devenu 10 ans plus tard?
Il se dirait que j'ai un peu pris du poids.
Ça va, t'es fit quoi.
Ouais, non, pas fit, mais j'ai un peu pris du poids par rapport à 25 ans. Que je fais pas assez de sport. je pense que j'aurais plutôt un regard bienveillant. Moi, je suis quelqu'un de très patient. Peut-être même des fois trop patient, mais j'ai une patience quand même. J'essaye d'être assez détendu. Et ça a pas trop changé. Donc, ce qui est quand même un peu l'enjeu quand tu deviens parent, c'est de pas péter des câbles, etc. Et donc là-dessus, je pense que je serais plutôt bienveillant sur ça. Je pense aussi qu'à 25 ans, le regard des autres m'apportait beaucoup. Et devenir parent m'a aussi fait complètement changer là-dessus. Tu sais, quand t'as 25 ans, je veux dire, t'as tout le temps peur d'être jugé. Et là, j'en ai strictement plus rien à foutre. Et depuis que j'ai ça, putain, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc là-dessus, ça a avancé. C'est, ouais, je pense, d'avoir des enfants aussi qui m'a fait me concentrer sur ça et m'aider à avancer. Là où peut-être je serais sévère avec moi-même par rapport à mes 25 ans, qu'est-ce que je pourrais dire? À 25 ans, enfin, ces années-là, ma vie, c'était un peu les fêtes, les copains, tu vois, être un peu l'organisateur, quoi. On m'appelait d'ailleurs un peu l'organisateur. J'adorais, tu vois, appeler à 18h et dire, allez, on se met un défi ce soir, on invite 15 personnes, on fait une énorme. Ça, c'est fini. J'adorais ça. Je sais pas si je le reprendrais, ce goût-là. Donc, peut-être, je me dirais, ah, c'est dommage que t'aies perdu ça.
Okay.
Parce que, ouais, chez moi, c'était un peu la fête tout le temps. C'était okay. Pas mal. On buvait pas de vodka, en revanche. Non, j'ai jamais aimé ça, mais c'est plus de la tequila avec du citron.
Ah bah.
Bien. C'est bien aussi. Hein.
C'est vachement bien. Qu'est-ce que t'as la sensation que ce boulot à la maison des maternelles t'a apporté à toi en tant que père? C'est quoi les. Je sais pas si t'avais deux ou trois leçons que t'as retenues grâce à ce taf.
Ça a structuré ma réflexion sur l'égalité homme-femme et ces questions-là, en fait, vachement. C'est-à-dire que moi, comme je te le disais, j'ai été élevé dans une famille où. Sans aucune forme de violence, aussi bien envers les enfants qu'aux violences conjugales, avec un souci, en tout cas dans les mots, d'égalité. Moi, quand j'étais à l'école aussi, je sais pas, j'ai baigné là-dedans, mais j'avais jamais vraiment intellectualisé le truc. Et depuis que je suis dans cette émission, je m'y suis vachement intéressé de plus en plus, et ça m'intéresse beaucoup. Donc ça m'a structuré là-dessus. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a apporté. Sur l'absolue nécessité de défendre coûte l'importance pour le père de prendre sa place, pour plein de raisons. Pour le père, déjà, pour qu'il soit présent, pour le lien avec son enfant. Pour la mère aussi, qui a plus de raison de. Enfin, qui a plus de raison. Je pense qu'il n'y a jamais eu de raison, mais. Enfin, si, quand seul le père travaillait, etc., c'était compliqué, mais.
Disons qu'on a moins d'excuses parce qu'on est au courant maintenant des mécanismes donc, psychologiques et sociétaux.
Ouais, c'est ça. Ça m'a structuré là-dessus. Ce que ça m'apporte aussi, c'est par exemple l'éducation bienveillante, quelque chose que j'avais jamais entendu parler avant cette émission. La discipline positive, ces choses-là que j'essaye de mettre en place. C'est pas toujours simple. Il faut prendre sa part. J'ai écrit un livre sur l'éducation bienveillante pour justement essayer de donner des petites clés de facilité aux gens pour s'y mettre tout doucement. Et en fait, il y a des petites astuces que tu peux grignoter qui t'aident un peu à
Pour les futurs ou les jeunes papas, c'est quoi l'éducation bienveillante? Tu peux.
L'éducation bienveillante. Déjà, tu gommes toute forme de violence, physique, psychologique, évidemment. Essayer de pas avoir des mots qui vont déterminer dans des cases tes enfants. C'est-à-dire, je sais pas, tu dis pas à un enfant, oh, t'es timide, ou oh, t'es chiant. Bref, de temps en temps, je le dis quand même. Mais ouais. Dans l'idéal, t'essayes de pas les mettre dans des cases. T'essayes de considérer que ton enfant, c'est une personne à part entière comme un adulte. Qu'il a le droit à la parole, il a le droit de donner son avis. Évidemment, c'est pas lui qui tranche, c'est là la nuance qui est importante. C'est pas l'enfant qui fait sa loi. En revanche, il faut l'écouter. Il est pas d'accord avec toi, ok, vas-y, explique-moi pourquoi t'es pas d'accord. Ça, c'est l'éducation bienveillante, qui a mixé un peu avec la discipline positive. Ça aussi, j'essaye de pas me faire bouffer par mes enfants, comme je pense beaucoup de gens qui sont sensibles à ces questions. Ce qui est pas toujours simple quand tu donnes la parole à tes enfants sur tous les sujets, quand ils ont la possibilité de donner leur point de vue. Bah, de temps en temps, le risque, c'est que t'écoutes trop leur point de vue, que tu dises, ouais, et que ça te fasse un peu vriller toi-même, et que du coup, t'imposes plus ce qui semble pour toi être bon. Donc, ce petit mix entre les deux qui est important de garder. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur l'éducation bienveillante? Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bienveillant.
Je mettrai un lien vers ton bouquin, tu veux, si les gens veulent en savoir plus, quoi.
Ce qui est important aussi, c'est au-delà du cliché. C'est-à-dire que l'éducation bienveillante, pour moi, l'éducation bienveillante, c'était vraiment l'enfant roi qui fait tout à la maison, qui décide ce qu'il bouffe, à quelle heure, qui mange dans son lit, en regardant un dessin animé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut aller un tout petit peu loin que le cliché pour s'y intéresser. Et je pense surtout que ça, en théorie, ça permet de déminer des situations compliquées, de tensions à la maison. C'est en ça que ça aide. Moi, je pense que c'est une clé pour aider les parents et les familles pour que ça se passe le mieux possible. Il y a un des objectifs, il y a plusieurs objectifs quand t'es parent. Ça aussi, c'est dans les maternelles que j'ai appris ça. Il faut aider les enfants à aller vers l'autonomie, si possible, leur donner confiance en eux. Ça, c'est vraiment un travail. Avec ma femme, on est raccord là-dessus. On essaye vachement de donner confiance en nos enfants. Leur faire comprendre que dans la vie, ils vont pouvoir tout faire. On va rien leur donner, mais ils peuvent tout faire. Donc voilà, c'est des choses bêtes hein, que je dis, mais quand tu l'intègres,
c'est pas des trucs forcément qu'on a reçus nous dans notre éducation.
Non,
tu vois,
de
façon très naturelle quoi. Tu vois, dans nos générations, j'ai l'impression.
Et puis aussi peut-être que dans votre vie, vous allez entendre que ça c'est pas pour toi, que ça c'est pas pour toi. Essayez de leur donner une confiance en eux suffisante pour qu'ils disent, ok, lui il pense que c'est pas pour moi, ben je vais lui prouver que c'est fou. Mmh. Tu vois, quand j'ai fait de la radio, il y avait un patron de l'époque, une radio où je travaillais, qui m'avait dit avec la voix de merde que t'as, je le cite, avec la voix de merde que t'as, tu pourras jamais faire d'antenne.
Sympa.
Bah putain, derrière c'est chaud, tu vois, sachant que mon objectif était de faire de la radio. J'ai pas une voix, tu vois, j'ai pas une voix grave, portée.
Pas une voix radiophonique.
Non, voilà, j'ai pas une voix radiophonique, mais sans doute parce que j'avais justement cette quand même petite confiance en moi, je me suis dit ok mon gars, tu vas voir. Et je sais plus, 3 mois après, j'étais à l'antenne, je faisais une chronique qui était un peu, j'étais pas très bon et tout, mais après comme tout le monde, tu progresses. Mmh. Mais j'ai eu ces ressources nécessaires. Si ça se trouve, c'est ce qu'il allait chercher chez moi en me disant ça, j'en sais rien.
Il voulait peut-être te piquer.
Mais bon je pense pas. Avec le recul, c'était pas un bon gars. Okay. Mais il s'est fait licencier.
Ok.
Donc tu vois.
Comme quoi le karma.
Le karma, c'est le destin dont on parlait. Donc essayer de donner ça à mes enfants. C'est-à-dire ouais. que si plus tard on leur dit, mais attends, tu veux devenir, je sais pas quoi, tu veux devenir médecin, mais médecine c'est hyper dur, t'y arriveras jamais. Mais tu vas voir si j'y arriverai jamais. Enfin, je te donne l'exemple de médecin, mais c'est valable pour tout, ouais. n'importe quoi, dans les arts aussi.
Garde forestier.
Mais fonce. Enfin, je veux dire, si c'est ce qui te fait plaisir. C'est ça aussi, hein, ça c'est un des trucs. Moi j'essaie absolument d'aider mes enfants à savoir ce qu'ils aiment dans la vie. Ils sont encore petits, mais je les saoule déjà avec ça. Parce que pour moi, l'orientation pour plus tard c'est le plus important. Moi, à partir du moment où j'ai su que je voulais être journaliste, j'ai toujours été un peu un branleur en cours. À partir du moment où j'ai su que je voulais être journaliste, je suis devenu une machine de boulot, quoi. J'ai bossé énormément, etc. Parce que j'ai trouvé ma voie. Et donc c'est hyper important. Donc aider les enfants à trouver leur voie, c'est les ouvrir à des mondes différents.
Est-ce que vous avez regardé Soul, le dernier Pixar en famille?
Ah, absolument.
C'est, ouais. Ça parle de ça justement, cette fameuse vocation, quoi, tu vois.
Et je l'ai trouvé extraordinaire. Tu sais, qu'en le voyant, le dessin animé, j'étais un peu déçu au début. Je m'attendais à un truc plus gai, plus joyeux, tu vois, plus genre Toy Story. Et c'est souvent un bon film, en fait. C'est le lendemain, quand il repense, tu dis c'est extraordinaire. Et donc, ouais, t'as raison, il montre bien ça. C'est-à-dire, il veut faire de la musique, c'est compliqué. Et puis...
Ça parle de vocation.
Ouais, de vocation, c'est beau.
Il y a autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, ta femme fait la matinale.
Ouais.
Donc, j'imagine que, de fait, toi, tu bosses en journée.
Ouais.
Elle bosse, j'imagine, plutôt la nuit, le matin. Ouais. Ça vous crée, en fait, une répartition obligatoire du temps avec vos enfants, quoi.
Tout à fait. Mmh. Donc, effectivement, elle part à 1h du matin. Donc, le matin, je gère. Ce qui... Oh là, tu vois, donc, ce matin, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, on est en direct à 9h le matin. Donc, moi, en théorie, je dépose mes enfants à 7h45, là où je dois les déposer.
Ouais.
Et après, j'arrive ici, il est 8h. Enfin, 8h, ouais. Le temps d'être maquillé, de faire des répétitions et tout. Et puis, à 9h-20, à peu près, je suis détendu, je peux boire un petit café, c'est cool. Et là, ce matin, je sais pas ce qui s'est passé. Mon réveil, il a sonné à 6h et je l'ai éteint. Et je me suis levé à 8h-10. Et donc là, direct à 9h. Et là, l'enjeu, c'est de réveiller les trois. Leur mettre le petit coup de pression nécessaire, faire en sorte qu'ils mangent quand même un truc, faire en sorte qu'ils partent à l'école à peu près propre, avec les dents lavées, la bouche, le sac fait, le masque dans le sac et tout. Plus, moi, accessoirement, quand même prendre une petite douche et machin. Et je suis arrivé ici, la gueule enfarinée, 9h-20. En plus, il y avait Elisabeth Badinter qui était là, donc c'était un peu. Ouais, c'est, tu vois, quand même une émission où il faut être un peu réveillé, tu vois. Ouais. Bref, ça s'est bien passé. Pourquoi je te raconte ça? Parce que non, ça demande un sens de l'organisation assez précis. Surtout ma femme, c'est une sportive de haut niveau. Si tu veux, pour se lever à 1h du matin, ça demande une rigueur, mais c'est démesuré. Je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, je pourrais jamais. 1h du matin, je sais pas si t'imagines.
Oui, si.
C'est une boucherie, 1h du matin.
Elle se couche à quelle heure?
Elle se couche vers 22h.
Ouais, j'imagine que c'est dur de se coucher avant, hein, de toute façon.
Pour que tu vois qu'on est quand même un petit moment à deux, une fois qu'elle a couché, qu'on a couché les enfants. J'allais dire qu'elle a couché les enfants, mais.
Ah.
On a ce petit moment à deux. Ensuite, elle va rentrer vers 10h du mat à peu près. Le temps de redescendre un peu, parce que quand t'as fait de l'antenne, tout ça, t'es un peu excité. Mmh. Redescendre un peu, elle va dormir, et puis se réveiller. elle va se réveiller dans l'après-midi, et puis après on récupère les enfants. Généralement, on les récupère à deux. Moi, je suis là aussi. Et ce qui est important, parce que le 17h-19h, ce qui est quand même le moment tendu quoi, à la maison, entre les devoirs à faire, ce qui est un enfer. Franchement, les devoirs, c'est chaud. Ça, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à l'accouchement, on n'est pas prêt aux devoirs. C'est pas pour nous. Bref, le bain, la faire la bouffe, tout ça. Donc, ça demande... on n'est pas trop de deux, quoi. On a de la chance d'être deux dans ces moments-là. Donc, paradoxalement, ces horaires barbares font qu'elle peut être là. Et moi, mes horaires font que j'ai aussi la chance de pouvoir être là tôt. Donc, on s'organise comme ça. Mais oui, il faut un partage... faut un partage total. Enfin, moi, de toute façon, j'envisagerais pas du tout ma paternité sans m'occuper de mes enfants. Je pourrais pas, tu vois, moi je pourrais pas.
T'as passé le cap de te dire, ok, dans quelques années, je retournerai travailler comme tu faisais quand tu disais que t'étais à Europe 1, que tu faisais des journées folles, quoi. C'est fini.
Non, ça, je plus jamais. Mais en revanche, je travaille quand même beaucoup, mais je travaille différemment, enfin, un peu comme nous tous. Souvent le soir, quand justement ma femme se recouche vers 22h, bah là, je vais rebosser, généralement jusqu'à minuit. Ce qui est un peu chiant, mais en fait, c'est un petit rythme à choper, puis une fois que tu l'as chopé, ça va. Je préfère ça et être présent de 17 à 19 à la maison, tu vois. Après, il y a des gens qui vont écouter, qui vont se dire, putain, mais quelle vie de merde, bosser à 22h. Bah, j'ai trouvé mon équilibre, et je pense que c'est important, chacun doit trouver un peu son équilibre qui fait que ça fonctionne à peu près, que t'arrives à peu près à gérer au boulot, à peu près à gérer les enfants et pas rater le réveil, quoi.
Ouais, j'imagine que tu dis pas que tu vas bosser à 22h et que t'as pas vraiment envie d'y aller, quoi.
C'est... Non, ouais.
Puis bon, la chance de faire un boulot voilà, sympa,
c'est ça le nerf de la guerre, c'est que comme mon boulot me plaît, c'est toujours, ouais, ça m'intéresse, quoi. Donc c'est plutôt agréable.
Autre projet que tu as lancé, c'est que tu as lancé un podcast d'histoire pour les enfants.
En fait, il y a 2 ans et quelques. Donc, ma femme Céline, elle a une super belle voix.
Ouais.
C'est un peu l'inverse de moi qui ai une voix pourrave. Elle a une très belle voix. Et elle racontait depuis toujours des histoires à nos enfants. Mmh. Et en lisant des histoires, comme au maternel, on reçoit plein de livres. Moi, souvent, j'en ramène. Et donc, on découvre plein d'histoires. On a une chance terrible. Un jour, on s'est dit, tiens, ça te dit, t'en enregistres une. Et comme ça, on peut mettre sur play de temps en temps quand tu vois, on veut boire l'apéro et on fait écouter. La base, c'est ça, pour pouvoir boire l'apéro tous les deux. Si on parle plus longtemps, tu verras que l'apéro a une place importante dans la réussite de ma parentalité. Je plaisante.
Soyez alcoolique.
Je plaisante, mais
ça aide. Ouais.
Donc, elle a enregistré. En fait, mon beau-frère qui s'appelle Alexandre Ferreira est réalisateur audio. Il a bossé à RTL longtemps, à Eurosport, sur différents podcasts et tout. Et en fait, on en a parlé tous les trois. Il s'est pris au jeu. Il a dit, envoyez-moi les fichiers. Moi, je mets un peu de musique, un peu de petit bruitage. À la base, c'est comme ça que ça se passe. Et il nous renvoie un truc top avec la musique. Enfin, le truc, ça déchire. Et on se dit, trop bien, on le fait écouter à nos enfants, ils adorent. Puis du coup, on l'envoie à 2-3 copains qui nous disent, putain, mais c'est bien votre truc, vous devriez le mettre en ligne. Et la base, ça part comme ça. Et donc, on le met en ligne. Et au bout d'une semaine, tu vois, ça fait genre, je sais plus, pas loin de 10 000 écoutes.
Ouais.
Et donc, tu connais bien le monde du podcast. Ouais, quand tu lances un truc qui fait 10 000 écoutes, on se dit, pas mal. Donc, on fait d'autres histoires. Moi, je négocie les droits avec des maisons d'édition qui acceptent. Et on met en ligne. Et puis là, rapidement, on arrive à 100 000 écoutes par mois, puis 200 000, puis 300 000. Et là, on comprend qu'on a un truc qui plaît, quoi, qui marche. On commence à recevoir plein de messages. Donc là, on s'est pris au jeu. On a un peu professionnalisé le truc. On écrit des histoires, on en fait écrire spécialement pour nous. On va payer, tu vois, des droits pour la musique, parce que les gens qui connaissent le podcast, voilà. On a de la pub maintenant sur certains épisodes qui nous permettent d'avoir un peu d'argent, qui nous permet d'investir, commander des histoires, etc. Donc après, cercle vertueux. Et puis, ça nous passionne. Et là, maintenant, ça marche très fort. Ça marche vraiment très fort. C'est un podcast qui est écouté, qui nous permet, nous, déjà de nous éclater. Parce que je pense que toi aussi, tu fais le podcast avant tout pour ça.
Ouais.
Parce que c'est un plaisir, c'est un bonheur. On a plein de retours d'enfants. Et il y a un truc qui, moi, me tient à cœur, c'est la place des écrans dans l'éducation des petits. Je pense que trop mettre devant la télé, de temps en temps, ça va. Le mettre trop, que ce soit trop un soutien à la parentalité, ça peut être un problème. Donc, je pense que le podcast, c'est une alternative qui est intéressante. Parce que déjà, tu n'as pas l'écran face à toi. Tu écoutes juste les enfants des tout-petits. On a des histoires des 2 ans et demi. Ça va stimuler plein de choses chez eux, leur imagination, leur imaginaire. Eux-mêmes vont se mettre à raconter des histoires. Donc tout ça fait qu'on a trouvé du public et que plus ça va, plus ça marche. Puis tu vois, on a de la chance. Moi, je suis au maternel, donc j'ai les bouquins, j'ai les contacts pour. Ouais. Ma femme a la voix nécessaire pour faire un super truc. Et Alexandre est un super monteur. Donc voilà, de la chance. Puis le confinement a fait exploser nos chiffres d'audience.
Ouais.
Et là, on a compris qu'on avait modestement, mais quand même un petit rôle, qu'on pouvait aider un peu des familles. Mmh. Donc on continue, quoi. C'est l'éclate. Après, on verra si demain, après-demain, ça continue. Si le podcast s'effondre, je pense pas.
Non, je crois pas. C'est parti pour.
C'est parti pour du. Bah, du coup, moi, ça m'éclate tellement le podcast que j'ai créé une société pour faire du podcast.
Ouais.
Avec
une boîte de prod.
Voilà, une boîte de prod. Alors, tu sais, boîte de prod, j'adore. Boîte de prod, ça fait tout de suite les grands bureaux à l'américaine. En fait, boîte de prod, c'est rien. Hein, j'ai un micro et un enregistreur. Ouais. Mais avec mon ami Vincent Gérard, qui est sportif, qui est handballeur, qui est le gardien de l'équipe de France de handball et du PSG, qui lui aussi se passionne pour les podcasts et tout. Donc, on a créé cette boîte tous les deux et on produit des podcasts sur tout un tas de sujets. On en a fait sur le sport de haut niveau avec lui, puis on en fait sur plein d'autres choses. On s'éclate là-dedans. Je sais pas vers quoi ça nous mènera, mais en tout cas, on s'amuse là-dedans.
Ouais, c'est cool. Donc le podcast d'histoire s'appelle Encore une histoire.
Encore une histoire, okay. Voilà, tout simplement.
Bah, je vous mettrai le lien si vous voulez aller découvrir.
C'est sympa.
Je vais te libérer, Benjamin, parce qu'il est il est moins 5.
Ouais, on a encore, si tu veux, on a encore jusque 59.
Ok.
C'est l'occasion de parler de toi.
Non, pas du tout.
Le vieux piège.
Laisse-moi tranquille.
Et alors moi j'ai quand même une question à te poser. C'est sur tous les pères que tu reçois qui sont quand même des pères souvent engagés.
Oui, pas.
Enfin, engagés dans leur paternité.
Oui,
dans leur paternité.
Qui ont au moins envie d'en parler, quoi.
Est-ce que toi, tu dirais, ça m'intéresse vraiment, est-ce que toi, t'es optimiste? C'est-à-dire sur la place que les pères prennent, etc. Est-ce que tu vois cette évolution
Oui, bien sûr. Et surtout, dans les vieux pères que je reçois, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai parfois des sexagénaires, si tu veux, des quinquagénaires, des sexagénaires. Et en fait, ils t'expliquent aussi l'évolution de leur propre paternité au fur et à mesure où ils ont vieilli et ils se rendent compte aussi de l'évolution de la place des jeunes pères aujourd'hui. Et c'est intéressant, en fait, ce miroir, tu vois. J'ai quelques darons qui sont vraiment dans ce truc de, ok, en fait, j'ai moi-même compris que j'avais une place à jouer ou on me l'a jamais donnée, ou alors je me disais que c'était la place de la mère et que c'était pas la mienne. Et je trouve, enfin, moi, je suis d'autant plus optimiste que le congé paternité, là, obligatoire d'un mois est passé. J'avais reçu, on en parlait juste avant le lancement, Tristan, qui racontait son congé paternité en Norvège, qu'il a passé 5 mois en tête à tête avec sa fille.
Lui, Tristan. Voilà. Parce qu'en plus, il est hyper drôle. Et son bouquin est génial.
Son bouquin est trop bien. Ouais. Bah, enfin, je vous mettrai le lien si vous voulez aller écouter l'épisode.
Alors, le livre, il se dévore.
C'est vraiment trop bien. Et surtout, je trouve que son témoignage t'aide à comprendre à quel point un congé paternité obligatoire, alors là pour l'instant on a un mois, mais on peut se dire que on pourrait rêver et se dire que ça pourrait passer à 2-3 obligatoires, est vraiment la base d'une société plus égalitaire, quoi, parce que t'as pas le choix de ce fait là en tant que père de t'y mettre, t'as pas le choix d'avoir comme il disait, des discussions en fait que t'as pas, c'est à dire que toi en tant que père t'es obligé de te dire ok, il y a un moment donné où je vais me retrouver en tête à tête.
C'est ça qui m'a fait le plus réfléchir dans son bouquin.
Ouais.
C'est quand il dit qu'en fait, nous, les pères qu'on est nous en France, t'es toujours le père avec la mère.
Le copilote, comme il dit.
Le copilote, ouais, c'est ça. T'es toujours, même que ce soit 11 jours, 3 semaines, 1 mois, pour ceux qui peuvent prendre plus, la mère est toujours là. Donc en fait, t'es jamais seul. Donc t'as pas cette responsabilité-là. Alors que là, si effectivement, nous, si les mères avaient 3 mois et nous 3 mois dans la foulée, là, tu te retrouves seul avec ton enfant. Et là, du jour au lendemain, t'es. Confronté à la réalité avec ses difficultés, parce que c'est quand même dur.
Je suis plutôt optimiste et je vois l'évolution de la société. Là, ça fait 3 ans maintenant que je fais ce podcast, c'est très intéressant de voir les lignes bouger en fait au fur et à mesure.
Bon, il y a de quoi être optimiste.
Yes, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. Si demain tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Tu auras 45 ans, ils seront autonomes. Tu pourras boire des apéros, tranquille.
Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Rien qu'ils ne sachent déjà, en fait. C'est ce que j'espère, c'est qu'en écoutant là, ils n'auront rien appris, rien découvert. Parce que sur tous ces sujets, j'essaie d'en parler avec eux. J'essaie de les élever là-dedans. Et donc, ce que j'aimerais qu'en écoutant, ils se disent, c'est... en fait, mon père a raconté ces trucs habituels sur le partage des tâches et sur l'égalité homme-femme et sur la place du père. Mais nous, on le sait déjà et il nous rabâche les oreilles avec ça. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois bien.
Et après, ce qui est plus intime, je leur dirai plutôt à eux dans 10 ans, en tête à tête, si tu veux bien.
Pas de problème. Merci à toi.
Merci, c'était un plaisir et bravo pour ton podcast qui contribue, je trouve, à tout ça. C'est sincère, donc je suis hyper content et fier d'avoir pu être ton invité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur.
Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.